Nous sommes deux pour une journée. Pourquoi nous sommes deux? Parce que il nous semble, on travaille depuis longtemps ensemble, il nous semble que l'initiation chrétienne est une tradition de l'Église, hein, de l'Église catholique. Elle n'est pas la même dans les autres églises, les autres confessions chrétiennes. Et donc ce duo, en quelque sorte, a deux voix parce que, évidemment, il y a la dimension liturgique et la dimension catéchétique d'accompagnement. Et il est important de travailler ainsi, en sachant que la liturgie, évidemment, est le cœur de l'initiation chrétienne, mais ça, on y reviendra. Et donc, on va comment dire, parler à deux voix. L'autre précision, c'est que, voilà, nous aimerions que la journée soit une journée plutôt décontractée sur ces affaires. Nous ne sommes pas là, nous, en tout cas, pour donner des injonctions. Ni frère Isaïa ni moi ne sommes évêques, vous l'avez remarqué. Donc c'est l'évêque d'un diocèse qui avec des collaborateurs, prend des décisions. Nous, ce qu'on voudrait, c'est approfondir cette question en sachant que, entre, et on le redira plusieurs fois, c'est-à-dire entre une compréhension théologique, entre guillemets, hein, théologique. N'ayez pas trop peur pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la théologie, mais une compréhension plus approfondie de l'initiation chrétienne permet de mieux comprendre, d'une part, ce qu'on pratique, avec les catéchumènes ados et adultes, les enfants aussi, et d'autre part, de donner sens à ce qu'on fait, même si on ne fait pas comme c'est marqué dans le rituel. Forcément tout, et des adaptations. Donc de mieux comprendre le sens de ce qu'on pratique. C'est un peu l'objectif pour nous, et évidemment aussi pour comment dire, argumenter par rapport au sacrement d'initiation, leur unité, leur ordre, là vous verrez. En introduction, l'initiation chrétienne est une expression récente. Alors vous aurez des textes. C'est une promesse qu'on tiendra. Pour Noël, ce sera le cadeau de Noël, en fait. Donc l'initiation chrétienne, hein, c'est une expression récente, hein, qui date de la fin du 19e siècle. Un historien travaillant sur l'Antiquité chrétienne, Louis Duchesne, peu importe le nom. C'est quelqu'un qui a commencé à parler des trois sacrements d'initiation en se référant à la pratique donc, de l'Église ancienne, baptême, confirmation, eucharistie. Un autre mot très, assez récent, c'est le mot catéchuména, hein, qui n'existe pas dans l'Antiquité chrétienne, dans les premiers siècles. C'est un mot qu'on a, entre guillemets, inventé au XVIe, XVIIe siècle, au moment où, dans les pays dits de mission, on restaurait déjà un catéchuména pour les non-baptisés, dans la mesure où, dans l'Église, de chrétienté, il n'y avait que des bébés qu'on baptisait. Donc, deux mots récents, finalement. Je dis ça parce que le rituel lui-même est un rituel récent, celui qu'on pratique. Et c'est normal qu'on soit dans une réception de ce rituel. C'est-à-dire que, voilà, on le reçoit, ça veut dire qu'on l'adapte, qu'on le comprend au fur et à mesure. Il est récent, il date de 1996 pour sa promulgation, de 97 pour la publication, et de mars 98 pour la mise en œuvre. Donc c'est déjà ancien, mais c'est récent pour la réception d'un rituel. On y reviendra. Voilà une définition, entre guillemets, c'est pas la seule, de l'initiation chrétienne pour poser les choses à Vatican II. À Vatican II, donc le concile qui a consacré l'expression initiation chrétienne, en quelque sorte, c'est un apprentissage de l'union au Christ et de la vie chrétienne intégrale, dit le concile. Donc, ce n'est pas un simple exposé des dogmes et des préceptes, mais une formation à la vie intégrale et un apprentissage par lesquels les disciples sont unis au Christ, leur maître. Entre parenthèses, ça donne une sacrée responsabilité, hein, quand on accompagne, de faire cet apprentissage que nous faisons en même temps avec les catéchumènes à chaque fois. Les accompagnateurs, accompagnatrices ont beaucoup de chance, puisque à chaque fois, ils refont l'apprentissage de cette union au Christ et de la vie chrétienne intégrale. Et puis, je finis là-dessus pour l'introduction. La spécificité d'initiation chrétienne, c'est le Christ qui initie. Jean Chrysostome disait que, au catéchumène, le Christ est là qui t'initie pour la nouvelle naissance par l'eau et l'esprit. Donc le Christ est là qui t'initie pour la nouvelle naissance par l'eau et l'esprit. Et donc le Concile Vatican II dit la même chose. Le Christ est présent par sa puissance dans les sacrements, au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. C'est une chose importante, pourquoi ? Parce qu'il y a un paradoxe. Si on est là aujourd'hui, c'est pour tout mettre en œuvre, pour que, non pas que ça se passe bien, mais que les catéchumènes ados-adultes soient initiés à l'union Christ et à la vie chrétienne. Donc il faut tout mettre en œuvre. Et en même temps, il y a une démaîtrise. Il y a une démaîtrise parce que la liturgie d'initiation nous invite, effectivement, à laisser le Christ faire et l'Esprit Saint aussi. Il y a quand même cette part-là qu'il ne faut jamais oublier. C'est pour ça que je rappelle. Donc, un paradoxe entre une maîtrise, c'est ce qu'on va faire là pour approfondir ce que c'est que l'initiation chrétienne et son rituel, et une démaîtrise parce que c'est quand même, évidemment, le Christ et l'Esprit qui font le travail essentiel. Et on aura deux temps. Voilà, c'était pour l'introduction. On aura deux temps. Une pratique ancrée dans les Écritures et la tradition. Et deuxième temps, l'horizon eucharistique de l'initiation chrétienne.
Voilà, donc nous allons nous plonger d'abord dans l'Écriture, voir un peu comment le baptême est perçu dans le Nouveau Testament. Vous savez que dans le Nouveau Testament, le témoin le plus ancien, c'est Paul, avant même les autres écrits du Nouveau Testament. Et Paul a la perception d'une dimension christologique du baptême. Il affirme fermement le lien avec le Christ institué dans le baptême. Il connaît, Paul, la formule du baptême au nom du Christ, et il y fait allusion dans plusieurs écrits, et la transcrit sous la forme abrégée de « baptiser dans le Christ ». Pour souligner davantage l'union étroite des baptisés avec le Christ, du coup l'expression « revêtir le Christ » dit bien cela, on est baptisé dans le Christ. Mais il y a aussi une dimension pneumatologique du baptême, et Paul affirme également la relation du baptême avec l'Esprit, en énonçant en même temps l'effet de la transformation de l'homme, de la constitution des relations ecclésiales. L'Esprit, selon lui, est le principe agissant du baptême. Je cite un passage de la première lettre aux Corinthiens. « Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus de justes. » Donc tout ce qui est accompli dans le baptême est opéré dans le dynamisme de l'Esprit, ainsi que par le nom du Seigneur Jésus. C'est ainsi que Paul utilise quelques images pour parler du baptême en termes pneumatologiques. Et ces images expriment la tension eschatologique dans laquelle le baptême place les chrétiens. Par exemple, il dit qu'on reçoit l'onction. C'est une image, une métaphore qui est utilisée pour indiquer le don de l'Esprit qui s'est produit dans le baptême. Il parle aussi de l'action de sceller, mettre un sceau dans et avec l'Esprit. Être scellé ou marqué de l'Esprit est une façon de dire la réalité intime des baptisés, c'est un don qui leur est attribué en vue de la rédemption finale. Le baptême comporte aussi l'aspect du pardon des péchés et de l'effusion de l'Esprit. C'est ce que disent, nous rappellent les Actes des Apôtres, quelques années après Paul. En effet, selon le livre des Actes, la réception du baptême au nom de Jésus implique le pardon des péchés, dont la nouveauté par rapport au baptême de Jean réside précisément dans la réalité de l'événement du salut et qui est lié au nom de Jésus. La façon dont on parle dans les Actes des Apôtres révèle que entre le baptême et la réception de l'Esprit, il n'y a pas de coïncidence simple ou absolue. Ce n'est pas un acte magique. Rappelons-nous le passage, de passage de la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, là où il dit, face à ses auditeurs, qui disaient, qu'est-ce que nous devons faire face à ce que tu nous dis? Et Paul, Pierre répond, convertissez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon des péchés, donc conversion, baptême pour le pardon des péchés, et puis il ajoute, vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Il y a une sorte de, là déjà on devine, une sorte de processus de ce don qui est reçu. D'où l'idée dans le Nouveau Testament que le baptême est fondamentalement procure le don de l'Esprit. En effet, c'est probablement tiré d'une tradition archaïque que la rédaction de Luc dans les Actes des Apôtres confirme rapidement la conviction que baptême et esprit sont inséparables. Et donc il est absurde de penser à un baptême chrétien qui n'est pas lié au don de l'esprit. Paul, en effet, en constatant l'ignorance des disciples d'Éphèse sur l'esprit, demande à quoi ont-ils été baptisés ? Comme pour reconnaître que le don de l'esprit est la conséquence normale du baptême au nom du Seigneur Jésus. Toute cette théologie que nous entendons dans le Nouveau Testament va être mise en œuvre, on pourrait dire, dans les premiers gestes chrétiens. Et donc, très rapidement, pour vous donner un peu le cadre, vous accrochez, je vais parcourir des siècles qui vont des origines du christianisme jusqu'au 7e voire 12e siècle, mais pour vous donner quelques repères importants. Tout d'abord, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que nous voyons du point de vue rituel par rapport au rite? On y voit une composante qu'on pourrait dire gestuelle et verbale. En effet, les textes du Nouveau Testament ne fournissent pas une description du rituel du baptême, mais plusieurs indices nous permettent d'esquisser le contour d'une pratique chrétienne à l'époque néo-testamentaire qui reste ouverte à une très grande variété des traditions ecclésiales. Et donc, de manière générale, le rite comporte une composante gestuelle et une composante verbale. En citant un des passages de la lettre aux Éphésiens, on dit que le baptême est un bain d'eau qu'une parole accompagne. Et le geste d'eau consiste probablement à cette époque dans une plongée, suivant la signification même du mot baptême, hein, immergé, submergé, mais il pourrait aussi s'agir d'une infusion sur la tête du baptisé qui est entré dans l'eau. Et donc ce geste en chrétienté advient toujours par l'intervention d'un ministre, ce qui change la donne par rapport au monde juif, où on se auto-baptise, et le baptême est accompagné d'une parole qui est celle au nom de Jésus, avec quelques variantes, peut-être dans les milieux judéo-chrétiens, ou encore au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, dans les milieux plutôt hellénistiques de l'époque. Il est certain en tout cas que le baptême à cette époque est lié à la foi au Christ, à son œuvre salvatrice, si bien que cette connexion décisive devait en quelque sorte être exprimée, le fait de croire au Christ quand on était baptisé, la foi au Christ. Très tôt, à partir du 2e et 3e siècle, on voit l'émergence, à à partir de cette composante gestuelle et de parole, on voit l'émergence d'un processus d'initiation. En effet, les rites d'initiation propres au christianisme connaissent un grand développement au cours du 2e et 3e siècle. On y reconnaît les premières formes de célébration au 2e siècle, dont je parlerai très rapidement, et on parvient à un processus de rituel complexe d'initiation qui comporte une longue préparation pour celui qu'on appelle désormais, à partir du 3e siècle seulement, catéchumène. On retrouve ce mot dans l'Afrique du Nord, dans les auteurs de l'Afrique du Nord. Mais au 2e siècle, un philosophe chrétien qui meurt martyr, Justin, fait allusion à une préparation au sens d'initiation dont le résultat est la ferme adhésion à la vérité et l'engagement à vivre selon l'enseignement reçu. Donc il y a, on voit bien que pour Justin, il y a d'abord un enseignement, une annonce de l'Évangile qui est de l'ordre d'un enseignement. Et cette initiation comporte aussi, selon lui, un apprentissage à la prière, au jeûne, et puis toute la communauté va s'engager dans cette préparation, selon lui, et à partir de ce moment où on apprend à prier et à jeûner, on conduit au bain, dit-il, celui qui doit être régénéré, dit Justin. Le rite est accompli au nom de Dieu, dit Justin, au lieu de Dieu le Père, maître de toutes choses, de Jésus-Christ notre Sauveur, du Saint-Esprit. Significatif aussi, selon ce témoignage qui est recoupé dans d'autres documents, significatif est le lien immédiat que Justin établit entre le baptême et l'entrée dans la communauté rassemblée pour célébrer l'Eucharistie. Baptême et Eucharistie sont intimement liés. Et donc, la participation à l'Eucharistie est réservée à cette époque seulement aux baptisés. Je vous fais remarquer que jusqu'à maintenant, il n'y a pas un signe d'onction, d'huile. L'Esprit est donné par le baptême, comme on le voyait déjà dans le Nouveau Testament. Mais à partir des époques successives, notamment au 4e, 5e siècle, on voit paraître une structuration fondamentale du processus d'initiation. En effet, on voit à cette époque émerger l'institution qu'on pourrait appeler catéchuménale, au sens que des catéchumènes sont initiés à la foi chrétienne et reçoivent les sacrements de l'initiation. Et on peut voir que la structuration fondamentale de ce processus à cette époque comporte un premier accueil dans l'Église, une préparation qui va se coller sur le carême, la préparation quadragésimale. Je vous fais remarquer entre parenthèses que le carême naît dans l'Église pour pouvoir préparer les catéchumènes. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas qu'on dit, tiens, on va faire le carême pour les catéchumènes. Non, les catéchumènes obligent l'Église à penser la période quadragésimale. Et puis donc, la célébration du baptême. On voit à cette époque des rites pré-baptismaux, notamment à Milan, les feta, que nous avons encore dans nos rites. Mais le rite fondamental dans toutes les églises à cette époque, qui sont multiples et diverses, c'est la renonciation à Satan et l'adhésion au Christ, la profession de foi, juste avant la plongée baptismale. Étroitement lié aux rites baptismaux Et la bénédiction de l'eau qui prend à cette époque une grande ampleur à cause, entre autres, des questions liées à la divinité de l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie l'eau, le pain, le vin. Vous voyez, donc il y a toute cette idée de la présence de l'esprit dans la matière. Et puis on peut constater que les rites qui suivent le baptême, la plongée baptismale, vont devenir très diversifiés, que ce soit en Occident ou en Orient. En Occident, on connaît, on mentionne une onction. À Milan, on fait même le lavement des pieds. Le mandatum est fait au moment du baptême pour signifier l'entrée dans la communauté. On révèle le baptisé du vêtement blanc. On y ajoute un sceau, comme on fait un sceau spirituel, en référence à l'infusion de l'esprit. En Orient, à Jérusalem notamment, on a la pratique de ce qu'on appelle la chrismation, entendue comme une conformation. Par la chrismation, on est conformé au Christ, dit l'évêque de Jérusalem, qui est lui-même a été oint de l'Esprit. Donc, il y a une sorte de reconnaissance entre le baptisé et le Christ qui est oint. Et donc, de manière unanime, tous les témoins à cette époque s'accordent pour retenir que l'Eucharistie est l'achèvement du processus d'initiation. On peut remarquer à cette époque, toujours lié à cette question de la divinité de l'esprit, qu'on a la propension à emphatiser particulièrement l'imposition des mains ou l'onction, y compris le fait de signer le front avec une onction. Les deux vont même s'unir, le geste de signer et de poser l'huile, hein, vont s'unir. Eh bien, on peut supposer que cette emphase de ce geste de l'imposition de la main et de l'onction est liée à la tendance progressive à voir dans ces gestes non seulement la capacité d'exprimer ce que le baptême a opéré, c'est une manière de dire qu'est-ce que le baptême a opéré, mais aussi pour signifier l'œuvre même de l'Esprit qui, agissant dans le baptême, vient se joindre étroitement à celui qui a été régénéré. Et donc, l'Esprit qui configure au Christ, qui est loin par l'Esprit, par excellence. Vous voyez, onction et imposition de main ont quasi la même fonction qu'a le vêtement blanc ou la lumière. Il prolonge ce geste, quelque chose du mystère qui est célébré. Mais tout cela désormais structuré à cette époque, à partir du 4e, 5e siècle, et on va voir par la suite ce qu'on peut appeler une sorte de atomisation des sacrements de l'initiation. J'essaye de vous montrer où on va, c'est ce qu'on a hérité jusqu'au Concile Vatican II. En effet, à partir du 6e siècle, la pratique du baptême des enfants va affaiblir de manière inévitable la signification du processus catéchuménal, qui est désormais, à partir du 6e siècle, réduit à une période de plus en plus courte et de plus en plus condensée dans sa dimension rituelle. On peut constater aussi que cela provoque une atténuation du lien avec la communauté ecclésiale au profit d'un plus grand investissement de responsabilité envers les parents, voire de plus en plus un investissement vis-à-vis des parents et des marraines. Et en outre, la célébration de l'initiation se fait de plus en plus dans les paroisses en l'absence de l'évêque. Cela va entraîner en Occident la séparation du baptême du rite de la confirmation qui est désormais réservé au ministère épiscopal. Cette situation, il faut le constater, va fonder la réflexion théologique ultérieure sur les sacrements et en même temps la pratique, c'est-à-dire cet éloignement de la confirmation du baptême, cette pratique va être justifiée et renforcée par la réflexion théologique. Il y a une sorte de passage, porosité entre la théologie et la pratique. Avec l'évolution des rites, dans cette période, se consolide également de manière décisive la discipline qui règle et structure l'initiation. Je cite deux moments qui sont quand même fondamentaux pour les pratiques. Au cours du XIIe siècle, nous sommes déjà au Moyen-Âge là, vous voyez, s'impose la pratique du baptême des nouveau-nés le plus tôt possible. Et cela a comme conséquence le fait que la confirmation va être presque définitivement séparée du baptême. De plus, le Concile du Latran de 1215 va demander que la communion qui était auparavant donnée juste après le baptême soit désormais rapportée vers l'âge de la discrétion. Et donc, la célébration de la confirmation va être liée non pas à l'âge, mais à la possibilité de faire intervenir l'évêque, cela en Occident. C'est assez intéressant parce que, à la même époque, pour dire, où ces changements vont advenir en Occident, en Orient, on garde par contre l'unité des sacrements. On voit que dans les églises orientales, l'initiation est célébrée dans un rite qui est continu, aussi pour les enfants, hein, et que la confirmation est ordinairement célébrée par les presbytres. Là où, pour les orientaux, ce qui compte, c'est le syncrème. C'est l'huile qui est le symbole de l'évêque, qui est le symbole qui dit l'unité à l'Église et donc l'intervention de l'évêque. Et donc, en Occident, la confirmation acquiert une physionomie spécifique à cause de sa séparation de la célébration du baptême. Et donc, cela va contribuer à la clarification théologique, dogmatique de la confirmation en tant que sacrement distinct du baptême. On voit bien que les raisons de la séparation sont à la fois pratiques et pastorales, notamment la diffusion des baptêmes dans les villages de la campagne, célébrés pour les enfants, parfois pour les personnes en danger de mort. Et donc, le fait aussi que la confirmation est réservée à l'évêque. Je terminerai par rappeler juste une chose de la conséquence de cela, c'est que l'éloignement de la célébration de la confirmation de celle du baptême aura pour conséquence une dévalorisation du sacrement lui-même de la confirmation qui ne sera plus considérée nécessaire pour le salut, comme c'est le cas pour le baptême, ou au moins initialement aussi pour l'Eucharistie.
Ça va? On a traversé des siècles et on va se retrouver à au XXe siècle, pour l'horizon eucharistique de l'initiation chrétienne, il y a eu donc des soubresauts dans l'histoire, l'histoire encore plus complexe hein, de l'initiation chrétienne et de ses sacrements, qui ont varié. Plus après, on a inventé la profession de foi, la communion solennelle, toutes ces choses-là. Donc ça, on va pas intervenir là-dessus. Mais donc, le plus souvent, c'est des questions pastorales, des préoccupations pastorales, pratiques et pastorales, qui déterminent, qui ont déterminé l'ordre des sacrements et d'autres célébrations qui ont été ajoutées un peu dans l'initiation chrétienne. Donc moi, je vais revenir sur Vatican II, donc on arrive à Vatican II. Donc c'est le Concile Vatican II qui, en fait, consacre l'initiation chrétienne, comme j'ai dit tout à l'heure, et les sacrements d'initiation chrétienne, qui pour le Concile, dans les différentes approches, il souligne l'importance, le Concile, de l'initiation des catéchumènes par la célébration du mystère pascal, dans son unité. C'est-à-dire qu'en fait, le baptême, il y a une régénération par le baptême, mais cette régénération par le baptême ne concerne pas seulement le baptême, mais isolément, mais le baptême en lien avec la confirmation et l'Eucharistie. Donc je vous donne deux citations hein, donc, que vous aurez, mais elles sont dans Vatican II. Du rituel d'initiation chrétienne des adultes. Par les sacrements de l'initiation chrétienne, les hommes, délivrés de la puissance des ténèbres, morts avec le Christ, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui, reçoivent l'esprit d'adoption des fils et célèbrent avec tout le peuple de Dieu le mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur. Donc le rituel d'initiation chrétienne est issu du Concile Vatican II et donc il commence par cette description, en quelque sorte, des sacrements d'initiation et de leur effet sur les catéchumènes, sur ceux qui le reçoivent. Et donc, c'est ainsi que les trois sacrements d'initiation chrétienne conduisent ensemble à leur pleine stature les fidèles, qui exercent dans l'Église et dans le monde la mission de tout le peuple chrétien. Donc, le premier numéro, le deuxième numéro du rituel, donne ce fondement de l'unité des trois sacrements d'initiation et de leur ordre. Quant au Concile Vatican II, donc, il donne un peu l'élan pour cette compréhension. Donc, baptême, confirmation, Eucharistie sont unis dans le rituel des chrétiens des adultes à la suite du Concile Vatican II. Pour faire un tout petit peu de théologie sacramentaire, baptême, confirmation, Eucharistie, un seul sacramentum, un seul sacrement. C'est Louis-Marie Chauvet, théologien des sacrements, qui donne cette expression d'un seul sacrement. Donc la Pâque du Christ, le mystère pascal, c'est la source de tous les sacrements, et notamment des sacrements d'initiation chrétienne. Donc on a entendu le témoignage de l'Église ancienne et de la tradition liturgique. Donc l'initiation chrétienne, elle a un vrai enjeu hein, quand même sur cette question-là. L'enjeu essentiel, c'est d'initier les catéchumènes à l'unité du mystère pascal, quel qu'il soit, hein, adulte, enfant, ado. Les initier à l'unité du mystère pascal, donc c'est en ce sens que Louis-Marie Chauvet parle des trois sacrements comme d'un seul sacramentum. Si là, on admet que les sacrements nous font participer au mystère pascal du Christ, hein, de manière rituelle, c'est une médiation, mais on participe au mystère pascal du Christ, ben, simultanément, on doit admettre que cette participation, elle est vraiment pleinement réalisée par les trois sacrements d'initiation. Parce qu'il est impossible de devenir davantage membre du corps du Christ et temple de l'Esprit que par ces sacrements. Et Louis-Marie Chauvet continue et il dit, voilà, on peut dire que sous cet aspect fondamental, hein, il n'y a qu'un seul sacrement, un seul sacramentum, qui est formé par l'ensemble que constituent les trois gestes du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, les trois gestes. Et donc les autres sacrements n'ajoutent rien, ne viennent pas ajouter quelque chose qui manquerait au sacrement fondamental. Ils n'ajoutent pas quelque chose qui manquerait. Mais ils viennent simplement soit restaurer, hein, là pour la réconciliation, et pour une part l'onction des malades, quelque chose qui a été affaibli, quelque chose qui a été détruit par rapport au sacrement d'initiation, soit spécifier un chemin de vie ou un état de vie pour le mariage et l'ordination. Vous voyez, c'est une manière un peu analogique, c'est pas... Il faudrait aller plus loin que ça, mais pour vous dire que c'est les trois sacrements qui sont ce sacrement fondamental duquel découlent les autres. En ajoutant aussi tous les sacramentaux, les bénédictions, la profession religieuse, les funérailles. Donc, on peut considérer donc, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie dans cet ensemble. On devient chrétien ou on devient chrétienne par la réception de ces sacrements qui ont pour cœur le mystère pascal, donc on peut les considérer comme formant un seul sacrement. Si on fait mémoire du mystère pascal, de son unité, c'est dans l'Esprit Saint. Et donc, en tout cas, le baptême, quel que soit le baptême, quelle que soit la personne auquel on administre le baptême, il devrait toujours être référé à cette Pâque du Christ, à son aboutissement de Pentecôte et à sa finale eschatologique de la fin des temps. Mais c'est cet ensemble-là que représente le sacrement d'initiation chrétienne. Donc même si on diffère, même si on fait isolément, il faudrait toujours référer dans la catéchèse ou même dans la célébration par des paroles pour référer, soit pour la première communion par exemple, référer à la confirmation, à la Pentecôte, mais aussi au baptême reçu. Voilà. C'est ça qui est important. Même si on n'est pas dans l'unité ou dans la forme au niveau pratique. L'unité et l'ordre donc des sacrements d'initiation, du baptistère à l'autel, hein, c'est le mouvement qui est d'ailleurs dans le rituel du baptême des bébés. Si devenir chrétien et chrétienne, c'est plonger par le baptême dans la mort et la résurrection du Christ, recevoir le don de l'Esprit, être nourri avec l'assemblée de la parole de Dieu et du pain et du vin, donc, c'est une nouvelle création à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, un peu comme la vigile pascale le signifie, on est dans une nouvelle création. Et donc, je reviens là-dessus, c'est bien l'Eucharistie qui scelle, on l'a entendu, qui scelle cette insertion dans l'Église comme corps du Christ. Un fondement sacramentel, en quelque sorte, de la communion chrétienne. On peut même se demander si finalement, le dernier geste de l'initiation chrétienne, c'est pas cette communion eucharistique. En fait, c'est cette communion eucharistique, le dernier geste de l'initiation chrétienne. Donc, par exemple, quand on confirme des jeunes, des adultes, quand il y a une confirmation, il serait peut-être, ça se fait, intéressant, de marquer d'une manière particulière l'Eucharistie qui suit la confirmation. D'une manière particulière, c'est-à-dire que les communiants, les confirmés, communient comme confirmés, et donc ils achèvent leur initiation chrétienne par cette confirmation. Et du coup, par cette Eucharistie, pardon. Ah oui, il y en a qui vont. Très bien, il y en a qui sont attentifs. Voilà, donc ce qui scelle l'insertion ecclésiale des néophytes, c'est dans le corps du Christ, c'est bien l'Eucharistie. C'est le seul des trois sacrements qui est réitérable, ça vous le savez, mais du coup il ouvre à la vie chrétienne. C'est le sacrement qui ouvre à la vie chrétienne. C'est pour ça qu'il y a un horizon eucharistique. Vie chrétienne qui prend continuellement sa source, évidemment, dans le mystère pascal, mais sans doute la vie chrétienne, avec une eucharistie qui normalement se répète. Et du coup, l'horizon eucharistique de l'initiation chrétienne, c'est ce que ça veut dire, hein, vous voyez, un horizon eucharistique. Alors, pour le rituel de la confirmation le dit bien, il dit bien hein, que dans son numéro 32 et dans son numéro 59, il dit bien que le lien fondamental de ce sacrement avec toute l'initiation chrétienne qui atteint son sommet dans la communion au corps et au sang du Christ. Voilà pourquoi les confirmés participent à l'Eucharistie en laquelle leur initiation chrétienne trouve son accomplissement. Et de même dans le numéro 59, les confirmés participent à l'Eucharistie en laquelle leur initiation chrétienne trouve son accomplissement. Donc une répétition de cette phrase dans des notes pastorales. Et ensuite, une autre référence, donc, c'est Benoît XVI. Donc vous voyez, Dans l'Italie, alors, je ne sais pas si ces numéros, quand on célèbre la confirmation, je ne sais même pas. Quand on prépare la confirmation, on lit les notes pastorales. Et je ne sais pas si on lit les notes pastorales, on relève ces numéros qui demandent finalement à donner une valeur à l'Eucharistie qui suit la confirmation. Avec la messe, donc le rituel dit bien d'ordinaire, la célébration est conférée dans la messe. Autre référence, c'est Benoît XVI, qui, dans le sacrement de l'amour, hein, son exhortation apostolique, au paragraphe 17 et 18, hein, vous pourrez vous référer, mais j'ai même ici, nous devons nous demander si dans nos communautés chrétiennes, le lien étroit entre le baptême, la confirmation et l'Eucharistie est suffisamment perçu. Il ne faut jamais oublier, en effet, que nous sommes baptisés et confirmés en vue de l'Eucharistie. D'où l'expression « horizon Eucharistie ». Nous sommes baptisés et confirmés en vue de l'Eucharistie. Une telle donnée implique un engagement dans le but de favoriser, dans la pratique pastorale, une compréhension plus unifiée du parcours de l'initiation chrétienne. Vous voyez, le Benoît XVI, il va doucement. Compréhension plus unifiée. Il ne dit pas qu'il faut faire comme ci ou comme ça, simplement c'est le but quand même qu'on ait cette compréhension-là. Parce que plus on aura cette compréhension, plus la manière dont on pratiquera l'initiation chrétienne, quelle que soit la pratique, hein, je dis bien, donnera sens à ces trois sacrements comme un seul sacrement fondamental, qui est une initiation au mystère pascal dans son unité. Et donc, il y a évidemment une tension entre théologie et pastorale. Ça veut dire qu'il y a une tension parce que, évidemment, on le sait bien dans la pratique, il n'y a pas d'idéal, ce n'est pas la question. C'est qu'on fait avec les. D'abord, on s'ajuste aux personnes qu'on accompagne, quelles qu'elles soient. Et ensuite, on a une pratique pastorale qui, d'ailleurs, a pris des habitudes, beaucoup. Hein, on a beaucoup d'habitudes. Par exemple, pour le catéchuménat depuis les années 50, la confirmation différée est quelque chose qui est une question à des adultes. Ça me posait un petit peu question, mais pas au catéchuménat, pas dans la pratique. On différait. Voilà. Et donc, c'est une habitude qu'on a prise. Et après, on ajuste la pastorale et on se dit, mais finalement, si la confirmation vient tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire après, par exemple. Ou alors, c'est dommage parce que la confirmation, finalement, elle passe inaperçue si on fait les trois en même temps. Elle passe inaperçue si vous ne dites rien. Mais si vous présentez l'onction du don de l'esprit, elle peut ne pas paraître inaperçue. Voilà. Donc on a pris l'habitude et du coup c'est difficile parfois. Alors je ne donne pas d'injonction. Hein. Je cite Benoît XVI. Au paragraphe 18. L'ordre des sacrements d'initiation. À cet égard, il est nécessaire de porter attention à la question de l'ordre des sacrements d'initiation. Portez attention. Vous voyez, il est pas prudent, on y porte une attention, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Enfin, il me semble. Dans l'Église, il existe des traditions différentes. Une telle diversité se manifeste avec évidence dans les traditions ecclésiales de l'Orient. On l'a vu avec Frère Isaiah, donc une pratique complètement différente. Et même dans la pratique occidentale, hein, en ce qui concerne l'initiation des adultes, par rapport à celle des enfants. Voilà. Néanmoins, de telles différences ne sont pas proprement d'ordre dogmatique, c'est de nature pastorale. Donc, il reconnaît que c'est évidemment la pastorale, et donc l'attention, c'est qui gagne? C'est la théologie ou c'est la pastorale? Ben, c'est l'alliance entre les deux. La théologie donne du sens, donc quelles que soient nos pratiques pastorales, il faut leur donner du sens, évidemment, il faut qu'elles aient du sens, il ne faut pas que ce soit, c'est pas un jugement de valeur, hein, de mauvais prétextes. Je peux donner un exemple pour sourire un peu. On a vu que le carême était créé pour les catéchumènes. Le cinquième dimanche de carême, il y a un scrutin. Et c'est le jour du CCFD. À Nantes aussi, je pense. Voilà. Et souvent, on nous dit, mais on ne peut pas faire le scrutin puisque c'est le dimanche du CCFD. Moi, je réponds, mais le carême a été inventé pour les catéchumènes, pas pour le CCFD. Ce qui n'empêche pas de faire quand même le dimanche du CCFD. Vous voyez, c'est... Je dis ça pour... c'est une réalité ce que je dis, c'est pas, j'y invente pas. Mais pour dire, c'est pas un mauvais prétexte, le CCFD, c'est pas la question. Voilà, donc, on est bousculé par cette histoire d'unité des sacrements, puisque c'est la tradition de notre Église catholique, hein, je répète, c'est pas pareil dans les autres confessions chrétiennes. Donc voilà, c'est pas histoire de tenir la tradition, donc ça nous bouscule un peu. Et du coup, l'interrogation qu'on peut avoir, c'est est-ce que notre Église... Est-ce que dans notre Église, dans ses pratiques, on est dans des pratiques d'initiation? L'enjeu, c'est quand même que l'Église soit initiatrice. Et c'est important. Parce que si on n'avait pas de problème, c'est pas dramatique, mais si on n'avait pas de problème, je veux dire, si on n'avait pas de question sur l'incorporation des néophytes, si il n'y avait pas de ce souci-là quand même depuis, je vous le dis, depuis le début du catéchuménat, depuis les années 50, tout le temps, on ramène cette question, et après, et après, et après. Donc si on n'avait pas ce souci, comme d'autres soucis, enfin, d'église, on dirait, bon, il n'y a pas. Mais l'incorporation des néophytes dépend de notre manière de les initier au mystère pascal. L'incorporation des néophytes, elle dépend de notre manière de les initier au mystère pascal, d'où l'interrogation, évidemment, qu'on peut avoir sur cette manière d'initier, dont fait partie la pratique des sacrements d'initiation, dans leur unité et dans leur ordre. Et voilà, c'est pour ça qu'il est important d'approfondir cette question de l'horizon eucharistique de l'initiation chrétienne.